VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Rwanda, la possibilité d'une modification de la constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 fait couler beaucoup d'encre. Mais contrairement aux autres pays africains, très peu de voix s'élèvent sur place contre cette éventualité. Les partisans du pouvoir, qui saluent le succès économique du gouvernement Kagame, ont même organisé une pétition pour exiger la révision de la Constitution. Des précisions avec Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Kigali.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la Constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier au pouvoir depuis plus de 20 ans achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali. Pour ce jeune homme élancé en costume cravate, les raisons pour maintenir Kagame au pouvoir ne manquent pas.
Nous venons de très loin. Nous n'avions rien, pas de route, pas d'hôpitaux. Et même en 1994, il n'y avait pas de développement. Notre président nous a sortis de cette situation.
À l'en croire, tout commence par des discussions sur les réseaux sociaux. Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la Constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017.
On leur a dit, faites comme ça, écrivez des messages personnels au Parlement et celui-ci va faire comme vous voulez.
Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains.
D'abord, permettez-moi de faire la différence entre ces États et ce qui se passe dans notre pays. Les citoyens de ces pays ne veulent pas de leurs leaders parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ces gens se plaignent d'être en retard, de ne pas connaître de progrès. Pour moi, au nom de la volonté populaire, notre président doit continuer à nous diriger. Mais les dirigeants du Congo ou du Burundi doivent démissionner parce que leur peuple ne les veut pas.
Et si malgré tout, Paul Kagame, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question, décide de renoncer au pouvoir en 2017.
Cela ne me plairait pas, mais je ne pense pas que ça puisse arriver, parce que nous sommes comme une famille au Rwanda. Et si la famille demande un service à l'un de ses membres, celui-ci ne peut pas refuser.
À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagassi Koura, Kigali pour VOA Afrique.
Tout le monde n'est cependant pas pour la modification de la Constitution au Rwanda. Dans une prochaine édition, vous entendrez Maître Bernard Ntaganda, président du Parti social Imbirakuri. Pour lui, la pétition est une simple manœuvre du parti au pouvoir. Au Burundi voisin, l'ONU, de plus en plus préoccupée par les actions violentes de la milice pro-gouvernementale des Imbonerakure, accusée notamment d'exécutions sommaires, d'enlèvements et de tortures. Des violations présumées des droits humains qui pourraient faire basculer une situation déjà extrêmement tendue dans le pays, déclare le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Rad Al-Hussein. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Adama Dieng, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides.
Effectivement, la situation est certes préoccupante. J'y ai séjourné à la fin du mois de mai. J'ai rencontré les autorités, j'ai rencontré l'opposition, la société civile. Et j'étais d'autant plus préoccupé que les Imbonerakure, qui sont considérés comme la jeunesse armée du parti au pouvoir, sont devenus véritablement une force sur le terrain. Et de ce point de vue, je ne peux que renouveler l'appel que j'avais fait il y a un an, que j'ai réitéré lors de mon dernier séjour, pour qu'une enquête soit menée par les autorités et que surtout un désarmement effectif soit effectué. Non seulement, bien entendu, du camp des Imbonerakure, mais également d'autres acteurs qui détiennent aussi des armes qui sont cachées.
Qu'est-ce qui, malheureusement, selon vous, pourrait faire dégénérer la situation?
Ma grande crainte, c'est que demain, cette crise qui est aujourd'hui à caractère essentiellement politique puisse déboucher sur une crise ethnique. Et connaissant l'histoire faite de violence et de tueries au Burundi. J'ai bien peur que si on n'arrive pas à arrêter cette crise, le pire pourrait arriver. Si l'on s'entête à rester sur des positions radicales, ce qui risque d'arriver tout simplement, c'est que les craintes d'attaque contre les populations fondées sur l'appartenance politique ou l'appartenance ethnique, eh bien, j'ai bien peur que ces craintes vont se révéler dans la pratique avec un accroissement de la violence. Il est essentiel aujourd'hui que les autorités du Burundi garantissent le respect des droits fondamentaux et l'état de droit, en particulier durant cette période de forte tension, et ceci en respectant les obligations internationales du Burundi en matière de droits de l'homme.
Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, deuxième semaine de consultation entre le président Joseph Kabila et des leaders politiques de l'opposition ainsi que de la majorité présidentielle en vue de l'organisation d'un dialogue avant les élections. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous soutenons les dialogues parce que nous sommes un mouvement politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société.
Ancien secrétaire général du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, Thomas Luaka, aujourd'hui à la tête de son propre parti, dénommé MLC Libéral, au sortir de son entretien avec Joseph Kabila. Le président a également reçu sa famille politique. Obem Minaku, secrétaire général de la MP, la majorité présidentielle.
Nous de la majorité, nous sommes prêts à dialoguer en tout temps, dans le respect des principes mis en place par le président de la République.
Dernier à être reçu ce mardi 9 juin 2015, le député national Justin Bitakwira, élu du Sud Kivu, ancien bras droit de Vital Kamerhe, a lui appelé le chef de l'État à résoudre la problématique de l'insécurité dans l'est de la RDC et à aider à la désignation du porte-parole de l'opposition. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, procès du commandant Jean-Noël Abéi au tribunal militaire d'Abidjan. Le commandant Abéi, un pilier de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo, est poursuivi pour complot et désertion à l'étranger. Selon l'AFP, le commandant Abéi a déclaré hier au procès qu'il avait déserté uniquement pour sauver sa vie et non pour préparer un complot. « Ma tête avait été mise à prix. On voulait m'assassiner », a-t-il dit, pour se défendre. Au total, 7 officiers fidèles à l'ex-président Gbagbo doivent être jugés par le tribunal militaire. Selon le parquet, ils risquent entre 3 ans de détention et la prison à perpétuité. Corne de l'Afrique, l'Érythrée dénonce le rapport de l'ONU l'accusant de violations systématiques et généralisées des droits humains. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Pour le gouvernement érythréen, ces accusations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne politiquement motivée qui vise à saper les progrès politiques, économiques et sociaux de l'Érythrée, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Le rapport de l'ONU épingle le gouvernement d'Asmara sur des questions comme la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de religion. Il note que des Érythréens accusés de crimes n'ont pas droit à des procès équitables et sont soumis à la détention arbitraire, à l'isolement et au travail forcé. Les Nations Unies s'inquiètent des entraves posées à ceux qui désirent quitter le pays et accuse nommément le président Isaias Afwerki, son parti, l'armée érythréenne et les ministères de l'Information, de la Justice et de la Défense.
En Tunisie, le gouvernement annonce son intention de faire appel d'une décision de justice annulant le décret de confiscation des biens de l'ex-dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Le point avec Eddy Issango.
Le ministre tunisien des domaines de l'État, Aten Elouichi, a confirmé sur une radio locale la décision énoncée la veille par les tribunaux. Il a, au nom du gouvernement, qualifié la décision de dangereuse et choquante et a dit espérer que le tribunal prendra la décision adéquate au niveau de l'appel. 114 membres et proches de la famille de M. Ben Ali et de sa femme Leila Trabesli avaient vu leurs biens saisis dans les mois qui ont suivi la révolution de janvier 2011. Selon le tribunal administratif de Tunis, le décret confisquant ces biens n'est pas valable car il n'a jamais été validé ni par l'Assemblée nationale constituante élue en octobre 2011, ni par l'Assemblée des représentants du peuple élue fin 2014.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.